voulez-vous pas que je sois votre femme?
Je vais épouser Mélanie.
Mais c'est insensé puisque vous m'aimez.
Oh, Scarlett, pourquoi m'obligez-vous à vous dire des choses cruelles? Comment vous faire comprendre? Vous êtes si jeune, si insouciante, vous ignorez ce que représente le mariage.
Je sais que je vous aime et que je veux être votre femme. Vous n'aimez pas Mélanie.
Elle me ressemble, Scarlett. Le même sang coule dans nos veines et nous nous comprenons.
Mais Ashley, vous m'aimez.
Comment pourrais-je ne pas vous aimer? Vous qui possédez cette passion de la vie qui me manque. Mais cette sorte d'amour n'est pas suffisante pour rendre heureuse en ménage deux êtres aussi différents que nous.
Espèce de lâche, ayez le courage de l'avouer! Vous avez peur de m'épouser! Vous préférez vivre avec cette sainte nitouche qui n'ouvre jamais le bec autrement que pour dire oui et non! Et qui vous affligera d'une bande de marmots bâtis comme elle!
Vous n'avez pas le droit de dire ça,
Mélanie. Et vous, de quel droit me donnez-vous des conseils? Vous m'avez bercé d'illusions! Vous m'avez fait croire que vous vouliez faire de moi votre femme!
Voyons, Scarlett, soyez franche! Je n'ai en aucune circonstance!
Je vous dis que c'est vrai, je vous le dis! Je vous haïrai toute mon existence! Je ne trouverai jamais de terme assez vil pour flatter votre conduite!
La guerre aurait-elle éclaté?
Monsieur, vous auriez pu manifester votre présence.
Au beau milieu de ce magnifique duo d'amour, c'eût été par trop manquer de tact, je le crains. Mais n'ayez pas peur. Je serai muet comme une tombe.
Monsieur, vous n'êtes pas un gentleman.
Et vous n'êtes pas une lady. Oh. Loin de moi la pensée de vous en faire un reproche. Les femmes du monde n'ont aucun charme pour moi.
Votre attitude a quelque chose d'ignoblement bas. Et vous m'insultez en plus.
C'était de ma part un compliment. Et j'espère bien vous voir de nouveau quand vous ne serez plus sous le charme de l'élégant Monsieur Wilkes. Je n'ai pas eu l'impression qu'il fût à la hauteur de votre... Comment était-ce? Votre passion de la vie.
Je vous interdis. Vous n'êtes pas digne de cirer ses bottes.
Dire que vous deviez le haïr toute votre existence.
Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Willkommen, bienvenue et bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs et bonsoir, chères auditrices. Voilà, vous êtes en train d'écouter Arrête ton cinéma, l'émission qui s'occupe de bricolage et de transformation d'intérieur. Mais non, bien sûr, c'est l'émission qui parle de cinéma. Et si vous écoutez cette émission, c'est que vous êtes sur les ondes rassurantes, bénéfiques et intelligentes de RDWA 107.5 FM. Voilà, alors il est évidemment inutile que je rajoute, mes chers compagnons d'audition, que vous pouvez retrouver cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, sur le broadcast éternel du www.rdwa.fr, émission thématique, voilà. Alors, mes chers compagnons, nous avions laissé la semaine dernière cette chère Dorothy Over the Rainbow, voilà. Eh bien, aujourd'hui, on va attaquer les années 39-45, hein, avec, eh bien, en premier, un western. La chevauchée fantastique de John Ford. Avec Thomas Mitchell, John Wayne, John Carradine, Claire Taylor. Alors, c'est l'ancêtre de tous les westerns. Ou alors, pour être plus exact, on pourrait dire que c'est le western de la maturité. Hein. Techniquement, ce n'est pas le premier. Hollywood s'est tout de même assez déchaîné à faire des westerns, hein, dans les années 20 et 30. Réalisé, écrit et produit par Tom Mix, par exemple. Alors, l'âge d'or va durer à partir de la chevauchée fantastique durant une vingtaine d'années avant une petite chute, un renouveau dans les années 60, effectivement, avec Sergio Leone et le fameux Western Spaghetti, hein, réalisateur italien, tournage en Espagne, avec après une longue et inéductable agonie, hein, puisque le genre est quand même assez c'est-à-dire que sorti du western, voilà, des Indiens, des cowboys, on tourne vite en rond. Et puis il va reprendre ses lettres de noblesse, notamment avec L'Impitoyable de Clint Eastwood et Danse avec les loups de Kevin Costner. Bon, mais reprenons La chevauchée fantastique de John Ford. Alors, le synopsis, on est en 1880, une diligence, vous savez, le truc à roues tiré par des chevaux, et dont les bandits ont fait évidemment leur cible privilégiée, transporte des voyageurs de la ville de Tonto, hein, hommage sans doute aux compagnons de Lone Ranger, l'un des plus grands bids de 2013, nota bene, jusqu'à la ville de Lordsburg. Voilà, le chemin forcément emprunté par d'hostiles indiens. Eh oui, chers compagnons d'audition, voilà, c'était encore l'époque où les indiens étaient les méchants et ils agressaient les gentils petits blancs. Oh, méchants qu'ils étaient. Voilà, hein, il fallait attendre la flèche brisée pour que les mentalités commencent à changer. Voilà. Alors, ces voyageurs, donc, sont évidemment un subtil échantillon de l'époque. John Ford est en pleine période du New Deal, il réalise là son chef-d'œuvre, empli évidemment de cette philosophie toute rooseveltienne, hein, de M. Roosevelt. Voilà, on est dans la politique des grands travaux. Donc, forcément, l'Amérique rayonne après, évidemment, la crise de 1929. Alors là, il y a sept hommes et femmes qui montent à bord de cette fameuse diligence. L'épouse d'un officier sur le point d'accoucher, puisque, évidemment, quand on est sur le point d'accoucher, rien de mieux qu'une diligence. C'est bien connu. Hatfield, un joueur professionnel et gentilhomme, ex-sudiste, et oui, parce que la guerre de sécession a cessé, c'est sûr. Un petit bonhomme timide représentant en whisky, bah oui, forcément, un western sans whisky, c'est impossible. Un shérif, et voilà, là aussi. Et Dallas, joué ici par Claire Taylor, qui est une prostituée chassée, évidemment, de la ville pour des raisons de mœurs. Voilà. Et Doc Boone, hein, joué ici par Thomas Mitchell. Alors, Boone, ne pas confondre avec Booth, hein, l'assassin de Lincoln. Non, là, c'est Doc Boone, comme Danny Boone. Voilà. Donc, qui est un médecin alcoolique. Et il y aura même aussi la présence d'un banquier malhonnête et corrompu. Pléonase, me direz-vous. Ah, ça, l'avenir seul en décidera. Ils seront rejoints par Ringo King, qui est joué ici par John Wayne. Alors, un jeune John Wayne. Oh, c'est compliqué à dire ça, un jeune John Wayne. Voilà. C'est pas encore le duc, hein, c'est pas encore le monstre de Hollywood. Hein, c'est un petit genou accusé d'un délit qu'il n'a pas commis, comme d'habitude dirait Claude François. Alors, ce dernier doit se rendre à Lordsburg pour exécuter les trois frères plumeurs, hein, qui ont assassiné son père et son frère. Ah là là, les joyeusetés de Far West. Donc la diligence quitte Tonto, malgré évidemment les avis défavorables de la populace en disant « Attention, les Indiens ils vont vous attaquer !» Mais non ! Parce que finalement, comme dirait l'expression, un Indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà, c'était dit, et je l'ai passé, c'était super. C'est génial. Donc voilà, le voyage, mes chers compagnons d'audition, est évidemment intense et métaphorique, va relever la nature de chacun. Les laissés pour compte vont se transcender et les bien-pensants se faire une nouvelle idée sur leurs compagnons de traversée. Quand la femme enceinte va accoucher, parce qu'on lui avait dit de ne pas y aller dans la diligence, mais elle y allait quand même, donc forcément, elle accouche dans des conditions forcément défavorables. On est en plein Far West non plus, hein, on n'est pas dans urgence. Et donc, elle accouche, notre chère dame, et c'est la Dallas, hein, donc la prostituée et le médecin alcoolique qui vont la sauver. Et puis, quand les Indiens vont les attaquer, évidemment, avant que la cavalerie arrive, parce qu'évidemment, la cavalerie arrive toujours au bon moment, avec ses cafés et ses haricots blancs, ce sont le hors-la-loi Ringo King et le gentilhomme méprisant et cynique, qui d'ailleurs y laissera la vie, qui défendront la veuve et son orphelin. À la fin du voyage, le shérif laissera Ringo King accomplir sa vengeance et même fuir vers le Mexique avec la belle Dallas. Le moment le plus spectaculaire et célèbre du monument, et d'ailleurs le mot est bien choisi, de Ford, c'est l'attaque des Indiens et l'arrivée de la cavalerie. C'est une séquence qui a été réalisée à une vitesse d'environ 60 km/h, hein, grâce à un caméra embarqué sur un véhicule. Tout cela évidemment dans les paysages grandioses de Monument Valley. Voilà, John Ford en fera le sanctuaire et la quintessence du western, comme les sommets enneigés et les forêts à perte de vue pour la fantasy. Hein. La Nouvelle-Zélande, voilà, maintenant, on peut pas faire un film de fantasy sans qu'il y ait des montagnes de neige éternelle. Bah oui, parce que la neige éternelle, maintenant, ça va devenir carrément une légende. Alors, le scénario est écrit par Dudley. Oh, par Dudley! Voilà, Nichols est basé sur une nouvelle d'Ernest Haycox, elle-même inspirée de Boule de Suif. Et oui, Boule de Suif de notre cher Guy de Maupassant.
Guy. Oh.
Comment?
Guy.
Comment ça se prononce?
Guy. Pierre. Non, c'est plus Guy. C'est plus Guy.
Non, c'est plus Guy.
Après, quand même, je sais comment je m'appelle.
Voilà. Hein, en 1880, d'ailleurs. Alors, il y aura deux Oscars pour ce film. Le meilleur second rôle pour Thomas Mitchell, dans son rôle de médecin alcoolique, hein, le fameux Doc, qui d'ailleurs deviendra une image éternelle du western, ce fameux médecin alcoolique, hein, et celui de la meilleure musique de film inspirée de la tradition folklorique, comme dans le célèbre Retour à Cold Mountain. Le cinéaste qui, depuis des années, n'avait pas réalisé de western, va entamer une période féconde et glorieuse qui allait faire de lui le chantre de l'épopée américaine. Et l'année d'après, il fera Les Raisins de la Colère avec Henry Fonda. Voilà. C'est vrai qu'il a quand même donné des belles images. Évidemment, le bandit Ringo King qui va donner évidemment cette image d'être victime et qui va devoir se racheter, le shérif, le médecin alcoolique et évidemment la fameuse Dallas, hein, la femme de mœurs légère qui n'en reste pas moins une femme au grand cœur. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite chanson assez rigolote que je vais vous passer, qui est issue du long métrage d'animation Tous à l'Ouest sur notre cher Lucky Lucky. Voilà, Lucky Luke. Et vous allez voir, les paroles ne sont pas à piquer avec des vers. Voilà, notre cher Dolly.
Pendant la semaine, souffle les balles.
Faire du radada sur mes roploplos. Voilà, belle image, hein. Et oui, Molly Muffins, hein, là c'est pas Dallas, mais voilà, c'est la belle du saloon qui sera l'une des images emblématiques du western. Voilà. Alors, on va rester aux États-Unis avec la MGM, la Metro Goldwyn Mayer, un film de Victor Fleming qui remplacera George Cukor et de Sam Wood, avec une durée de plus de 3h40 et qui est un monument à lui tout seul, évidemment, autant en emporte le vent, dont je vais vous laisser forcément avec le générique. Voilà, autant en emporte le vent.
Thank you.
Voilà, autant en emporte le vent. Oh, Red Butler et Scarlett O'Hara. Voilà, nous étions dans Monument Valley. Eh bien, autant emporte le vent est un monument plus qu'un film. Voilà, avec un budget de 4 millions de dollars. Autant une rigolade de nos jours, mais à l'époque, 4 millions de dollars tout de même. Un budget colossal dans les années 30. Il détient jusque dans les années 70 le record absolu des recettes et du nombre de spectateurs. Alors, techniquement, il bat Avatar. Parce que en fait, s'il faut inscrire aussi le budget qui a le film a coûté et évidemment les effets spéciaux et le fait que évidemment la population a augmenté, si on commence à faire des calculs un petit peu savants et que je retienne 2 et que j'ajoute 4, voilà, techniquement autant n'importe le vent reste le film le plus bankable des États-Unis. Alors l'histoire est inspirée d'un roman de Margaret Mitchell écrit en 1936 qui grâce au succès du film d'ailleurs va lui permettre de vendre plus de 60 millions d'exemplaires. Selon la légende, son auteur aurait touché que 50 000 dollars pour les droits d'adaptation. Alors autant emporte le vent, c'est 8 Oscars, hein. Celui du film, celui du metteur en scène pour notre cher Fleming, l'actrice Vivien Leigh, le meilleur second rôle, Hattie McDaniel qui devient la première représentante de la communauté afro-américaine à obtenir une récompense, du scénario pour Howard, de la photographie pour Heller et Renan, et des décors pour Wheeler et Menzies. Voilà. Vous me direz, mais Clark Gable, il n'a pas reçu. Non, non, Clark Gable, il n'a pas reçu. C'était en fait en 1940, hein, puisque c'est évidemment l'année d'après, le meilleur acteur, c'était Robert Donat pour Goodbye, Mr. Chips, d'un certain Sam Wood aussi. Hein, voilà, le même Sam Wood qui fait autant n'importe le vent. Alors, pour l'histoire, hein, puisque forcément, quand on filme des films pareils, il y a toujours des légendes urbaines, l'actrice Hattie McDaniel fut exclue du gala organisé pour la première. Oui, alors en raison de sa couleur, c'est évident, puisque le 15 décembre 1939, la première a lieu à Atlanta, dans l'état ségrégationniste de Géorgie. Donc, j'ai envie de vous dire, pas que c'était un peu logique, mais enfin, c'était un peu couru d'avance. Et oui, voilà, hein, comme quoi. Hein. Alors, c'est vrai que si David D. Selznick fut le véritable auteur du scénario, une dizaine de plumes laissèrent leurs traces, notamment le papa de Gatsby le Magnifique, Francis Scott Fitzgerald, vous savez, le type qui a inspiré la maman Kennedy, son fameux John Fitzgerald Kennedy, voilà, peu furent hélas crédités. Au rançon de la gloire, n'est-ce pas? Mais où est la justice? Mais il en est tout de même pour le réalisateur, puisque effectivement, Victor Fleming remplace George Cukor, comme pour Le Magicien d'Oz, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, et Sam Wood, qui n'est même pas lui aussi crédité. Ainsi que d'ailleurs le chef décorateur William Cameron Menzies, dont le travail fut merveille avec la Technicolor. Un peu comme avec Guillermo del Toro et ce cher Peter Jackson sur Le Hobbit. Évidemment, là aussi aidé par notre cher Andy Serkis. C'est-à-dire que quand on commence à faire des gros projets, il y en a certains qui, au bout d'un moment, eh ben, ils abandonnent. Voilà, ça fait un peu partie de l'histoire. Évidemment, de nombreuses actrices étaient en lice pour jouer Scarlett O'Hara, l'héroïne de la saga de Mitchell, puisqu'il y aura aussi un Tara. Hein. Paulette Goddard, hein, la môme des temps modernes de Chaplin, et aussi la Anna du Dictateur, Suzanne Hayward, Miriam Hopkins, Catherine Hepburn, Carole Lombard, Jean Arthur, Joan Crawford, Tallulah Bankhead. Alors celle-là, Tallulah Bankhead, je la connais pas. Et finalement, bien sûr, c'est Vivien Leigh qui va l'emporter, la future Madame Sir Laurence Olivier. Alors, elle a été, il est vrai, qu'une, avec des gros guillemets, jeune actrice anglaise inconnue du public. Par contre, pour le masculin, c'était Clark Gable qui reçut la somme de 120 000 dollars. Mais ce qui est quand même assez important pour l'époque. C'est vrai que maintenant qu'on voit les contrats des stars pour faire des films, on rigole doucement. Avant lui, Errol Flynn s'était présenté aussi avec cette fois-ci Bette Davis dans le rôle de Scarlett. Alors, le synopsis, alors parce qu'un certain ne l'auront pas évidemment vu, donc c'est la vie tumultueuse de Scarlett O'Hara, jeune fille indépendante, volubile, assez brise-burne, hein. Je pense qu'au niveau du championnat des brises testicules, elle est sur le haut du pavé, hein. Hein, elle est quand même assez un peu énervante, hein, quand même. Elle est issue d'une famille riche du sud de l'Amérique, hein. Son univers va s'écrouler avec la guerre de sécession 1861-1865, parce que voilà, toute la jeunesse sudiste dont l'économie repose sur l'esclavagisme veut botter le cul de Lincoln et du général Grant, évidemment, avec le général Lee, pas la voiture, hein, le type avec la barbichette. Voilà, alors Scarlett aime depuis toujours, et depuis longtemps même, hein, ce cher Ashley, hein, joué ici par Leslie Howard, mais ce dernier va épouser la douce et charitable Mélanie Olivia de Havilland, parfaite dans ce rôle, évidemment. Alors, c'est-à-dire que Ashley, il préfère une fille un peu calme, ce qui va évidemment énervée Scarlett O'Hara, elle va tout faire pour l'avoir, contracter de nombreux mariages, mais surtout pour l'avoir. Et c'est là qu'elle va rencontrer ce cher Red Butler, qui est un aventurier et un contrebandier. C'est le seul qui ne cédera jamais à ses caprices. Mais voilà, ce sont deux caractères très très forts, fougueux, et ne parviendront jamais à s'entendre, malgré un mariage, malgré un enfant, et le drame, hélas, incapable de choisir entre l'amour et le mépris, s'interdisant de facto, voilà, toute possibilité de vie heureuse. Et quand enfin Scarlett implore « Si vous partez, que vais-je devenir ?» Red lui claque un « Franchement, ma chère, je m'en fiche comme d'une guigne !» Et elle de clore le film avec une dernière réplique devenue intemporelle. « J'y penserai demain, après tout, demain est un autre jour. » Non, non. Non, 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 non. Voilà sur les terres rouges de Tara. Voilà. Alors, il y a eu une suite, hein, donc Tara, voilà, qui était en fait un téléfilm avec évidemment le retour de Scarlett O'Hara. Voilà, super énervé. Non, je déconne. de Scarlett, évidemment, et son retour avec Red Butler. Alors, certes, ce film est une légende d'une nostalgie sudiste, hein, d'une époque bénie, entre guillemets, grandeur et décadence d'une nation. Alors, sur fond de toile de récits ultra conservateurs et traditionnalistes, se déploie un réquisitoire accablant du racisme et de l'esclavagisme. Paradoxalement, c'est quand même une fresque nostalgique condamnée par l'histoire. La réplique finale, si elle résume la force et la modernité de l'héroïne, traduit aussi la puissance de ce film. La production du film devient une légende dont il devient la quintessence, l'expression la plus authentique. Remanié à chaque édition, le film ne sort qu'en 1950 en France, évidemment à cause de la guerre, hein, 39-45, forcément on a vécu un petit peu en dehors de Hollywood. Malencontreusement, comment vous dire, celui-ci a adopté un doublage que nous qualifierions de politiquement incorrect, incorrect. C'est-à-dire que familier à des générations entières de téléspectateurs. Voilà. Alors, les Noirs dans ce film, et en particulier la gouvernante, Mommy, parle avec un accent petit nègre assez ridicule. Voilà, on roule les wow. Et oui, on parle au commissaire. Voilà, c'est la chambre 106. Et que, d'ailleurs, il y a aussi une jeune fille dans le film qui hurle, qui a une voix au perché, mais c'est une, on a envie de lui claquer le beignet, mais c'est pas de sa faute, hein, mais je sais pas qui c'est qui a une voix pareille, mais le doublage, il est atroce. Donc voilà, donc c'est évidemment, voilà, hein, c'est comme dirait l'autre, des fois les doublages, c'est comme les titres, hein, c'est pas obligatoirement une réussite, hein, voilà, autant en emporte le vent. Mais le temps tourne, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, donc nous allons continuer, voilà, nous avions fait la chevauchée fantastique, nous avons fait autant en emporte le vent, et là, après la MGM, on va s'attaquer à la RKO, avec en 1941, Citizen Kane, réalisation Orson Welles, avec Orson Welles, Joseph Cotten. Oscar du meilleur scénario. Alors, un film, une légende, voire même plus. Alors, c'est vrai qu'il est loin d'être l'égal de la gloire immédiate dont on emporte le vent. Ça, on se trouve devant plutôt un phénomène où on va se dire que le recul, c'est ça qui a permis sa gloire. En effet, il a fallu du temps pour que les prééminences soient reconnues, non sans peine cependant. Incompris d'ailleurs à l'époque, le film est mal accueilli aux États-Unis, tandis que l'Europe ne réalise que son importance qu'après-guerre. Forcément, là toujours, la guerre mondiale, forcément les films arrivent un peu en retard. Jorge Luis Borges et Jean-Paul Sartre d'ailleurs font beaucoup pour son succès. À la sortie de Citizen Kane, le 1er mai, s'il a fait du travail, 1941, Orson Welles a bientôt 26 ans. Il bénéficiait d'ailleurs d'une aura de génie baroque et que ce film démesuré en tout point allait carrément décupler. Ce début explosif sur le grand écran précédait sa réputation acquise sur les planches de théâtre et surtout derrière un micro. Et oui, souvenez-vous, chers auditeurs, chères auditrices, souvenez-vous du 30 octobre 1931. Orson Welles présente sur les ondes de la CBS une adaptation du roman de science-fiction d'A.G. Wells, La guerre des mondes. L'impressionnante chronique simule en fait un débarquement tragique des Martiens sur Terre. Elle fut si impressionnante qu'elle provoqua des réactions de panique à travers le pays. Des milliers d'auditeurs avaient pris pour argent comptant ce que disait la voix de la radio. Et oui, la radio était toute puissante à l'époque. La force est puissante à côté de lui. Ce malentendu porta Orson Welles au nu. Forcément, les grands studios voulurent profiter de l'aubaine. Et oui, dès qu'il y a envie de se faire du pognon, les grands studios sont toujours là. C'est la RKO qui se présenta la première à lui faire un pont en or. Une entière autonomie. Une entière autonomie. Ce qui, de nos jours, paraîtrait un petit peu, ouais, bon, et alors ? Mais à l'époque, c'est un truc, c'est de la science-fiction, on peut le dire. Hein. À la fois réalisateur, scénariste, et acteur de son propre film. Du jamais vu, Hollywood obéissait à des règles très strictes, hein, extrêmement rigides, qui privaient d'ailleurs le réalisateur de toute emprise sur son film. Ah, parce que c'était business. Hein. Donc finalement, les débuts d'Orson Welles et la genèse de son chef-d'œuvre symbolisent également la première manifestation historique à Hollywood, même de ce que devait être le concept moderne de cinéma d'auteur. Et oui, directement inspiré de la vie de William Randolph Hearst, magnat de la presse, à la tête d'un vaste empire de la communication, le Berlusconi de l'époque si vous préférez, la télé peut-être en moins, le personnage de Charles Foster, Kane, est présenté au début du film alors qu'il meurt. This is the end, my friend, comme dirait Apocalypse Now, seul et désemparé. La séquence d'ouverture montre en effet Xanadu, voilà, qui est donc la capitale de Kubilai Khan, hein, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire. Voilà, qui est en fait, Xanadu est une résidence lugubre et monumentale, un peu, ce qui me fait penser un peu à la résidence de la famille Winchester, hein, qui avait une immense maison avec des noires de portes, d'ailleurs des portes qui ne donnaient sur rien. À l'allure donc de Xanadu, à l'allure de mausolée que Kane a fait construire pour satisfaire évidemment sa folle idée grandeur. Il est lord, monseigneur, lord s'est réveillé. Évidemment, comme les fameux châteaux de Louis II de Bavière, hein, si vous savez pas à quoi ça correspond, eh ben vous allez regarder le fameux château de Walt Disney qu'on voit toujours au début. Eh ben c'est voilà, c'est un peu l'image. C'est-à-dire que c'est un roi qui avait vraiment la folie des grandeurs, qui se faisait des châteaux alors qu'à l'époque ça ne servait à rien. Eh ben voilà, Xanadu c'est pareil, c'est un monument lugubre qui ne sert à rien si ce n'est à dire. « Hey, j'ai le pognon pour le faire !» Voilà. Donc, la caméra s'approche du lit du mort, hein, et on peut le voir glisser de sa main alors qu'il expire, comme dirait William Shakespeare, à une de ses boules de verre, dites évidemment de boules de neige, avec une petite maison à l'intérieur. Et on l'entend prononcer un ultime mot. Rosebud. Rosebud. Et ici débute l'enquête sur la vie, l'œuvre et le pédalo de Kane. Enquête évidemment confiée à un journaliste qui va interroger les proches du mania de la presse de cette ultime parole. Alors que seul le spectateur a pu l'entendre, ce mot. Voilà l'une des nombreuses provocations du film. La seconde épouse, qui est une médiocre chanteuse lyrique, le majordome, et oui, qui d'ailleurs travaille depuis chez les Wayne. Je plaisante, il a fait un retour à Howard End. Comprends qui peut. Et évidemment, les plus proches collaborateurs au New York Enquirer, c'était un journal en crise que Kane a racheté et a boosté à coups de scandale et de chantage politique. Il en a fait d'ailleurs évidemment son fer de lance. Chacun fait son portrait de l'homme. L'objectif est de découvrir qui est Rosebud. Sans la clé pour savoir qui fut véritablement Kane, une vie d'ambition sans mesure, de projets audacieux et de rivalité opiniâtre. Oui, j'aime beaucoup utiliser ce mot opiniâtre. Une vie menée avec une audace et assurance indéfectible dans des affaires politiques comme dans les sentiments et qui s'achèvera d'ailleurs par la déchéance, par l'excès même de l'égocentrisme. Oui, vous êtes toujours sur le 107.5 FM, arrête ton cinéma égocentrisme. Pourtant, au final, Rosebud est l'expression d'une vie des plus modestes. Le nom qu'un enfant pauvre donna à sa luge avant qu'un héritage ne l'emporte vers d'autres horizons, faisant de lui un être riche. Le film eut un énorme impact. Par son ton dénonciateur d'une parabole sur la place du pouvoir et de l'argent dans la société américaine, cela fit tellement mouche que le mania de la presse, William Randolph Hearst, va déchaîner sa propagande, sa presse, pour boycotter l'œuvre de Orson Welles. La presse et la radio contre l'œuvre d'un homme. Il eut de nombreuses tentatives d'ailleurs de l'interdire. 9 fois nominé aux Oscars, il n'en a reçu qu'un seul, celui du scénario signé par Welles et Herman G. Mankiewicz, le frère de Joseph L. Mankiewicz. Sur le plan stylistique, il se révèle aussi révolutionnaire que le furent les classiques russes comme Eisenstein ou les films expressionnistes comme Murnau, allemand, ou que le seront les chefs-d'œuvre néo-réalistes italiens comme Le voleur de vélo et Rome, ville ouverte. À travers l'œil du directeur de la photographie, Craig Tolland, le film expérimente des solutions dont l'audace va à l'encontre des règles établies de la grammaire et de la syntaxe cinématographique. Et oui, messieurs, dames, focal et objectif, donnant une plus grande profondeur de champ, recours à des éclairages expressionnistes, à des angles de prise de vue en plongée et contre-plongée avec des flashbacks. Voilà Citizen Kane, une œuvre unique faite par un homme unique, Orson Welles. Alors, on va laisser quelques petites musiques, hein. Voilà, avant de s'attaquer à un autre film américain. Oui, c'est très américain, c'est cette fois-ci, avec, ma foi, un petit morceau de Chinese Man, I've Got the Tune.
tune that we always play for the meat.
Chinese man, voilà, I get the tune. Voilà, il a les thunes. Non, je déconne. Alors, nous avions parlé d'Autant n'emporte le vent. Nous avons parlé de Citizen Kane, de la chevauchée fantastique. Un autre monument du cinéma, Casablanca de Michael Curtis, 1942, Oscar du meilleur film, avec Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Arden, Dooley Wilson, Conrad Veidt et Claude Rains. Mythique, il n'y a pas d'autre adjectif. Oui, mythique. Réalisé et situé en 1941 et sorti en 1942, Casablanca est la contribution la plus extraordinaire, la plus efficace que le cinéma qui est un langage accessible au plus grand nombre et qui prend ici la forme d'une combinaison miraculeuse d'aventure, d'espionnage, mais aussi de romantisme, qui est offert à la lutte contre le fascisme et surtout le nazisme et à la promotion du patriotisme démocratique des Alliés. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale et c'est pas un des moments les plus joyeux. Alors, le synopsisme, s'il vous plaît. Nous sommes évidemment en pleine Seconde Guerre mondiale. Le port de Casablanca au Maroc est le carrefour où se trouvent aventuriers et surtout espions. C'est un nid d'espions, comme on dit. L'Américain Rick Blaine, joué ici par Humphrey Bogart, s'est exilé volontairement pour fuir un lourd passé plein de désillusions sentimentales, mais aussi des combats pour la liberté. Le nightclub Rix est toujours plein à craquer. Il accueille une fouille des plus hétéroclites, mêlant des officiers allemands comme le major Heinrich Strasser, Konrad Veidt, et des policiers français comme le capitaine Renault, joué par Claude Rains. N'oublions pas le petit détail de la grande histoire, c'est que la France est sous l'occupation allemande depuis la déconfiture des avancées blindées à travers les Ardennes jusqu'à la retraite de Dunkerque. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le film Weekend at Ducotte avec notre cher Bébel pour bien comprendre. Donc, 1940. Le Maroc est alors un territoire colonial français, un protectorat. C'est un côté un peu plus léger que le côté départemental de l'Algérie. Ce qui fait que, techniquement, Renaud est ami de Strasser. Dans cet endroit se promènent des personnages plus que douteux, des trafiquants d'armes ou de papier, des profiteurs de toute espèce, des individus qui cherchent fortune et de façon rapide. Des joueurs, par exemple, rôle secondaire confié à Sidney Greenstreet et Peter Lorne. Alors, Peter Lorne, c'est surtout cette face lunaire, cette célèbre assassin en série, le serial killer. Ta-da-dang ! Le quoi ? Le serial killer. Ta-da-dang ! Le quoi ? Bon, le tueur en série, donc voilà, Peter Lorne dans le M, le maudit de Fritz Lang. Mais aussi, évidemment, c'est aussi un lieu où des patriotes antifascistes et des combattants de la résistance se réunissent. Victor Laszlo, Paul Ehrnard, un responsable de la résistance tchèque, arrive clandestinement à Casablanca accompagné de son épouse, Isla, jouée par Ingrid Bergman. Il recherche à tout prix un laissez-passer pour joindre un lieu plus sûr et continuer la lutte. Il se trouve que Rick a ce laissez-passer. Et comme le hasard et surtout le scénario des frères Epstein et Howard Zenock, d'après la pièce de Murray Burnett et Joan Allison, font merveille, il se trouve que, comme par hasard, Ilsa est la fameuse femme que Rick a tant aimée et qu'il a abandonnée. Enfin, c'est elle qu'il a abandonnée à Paris et qu'il aime forcément toujours. Ah là là, tragédie, tragédie. Si Rick se cache derrière un masque cynique au nom de cet amour perdu, il est prêt au nom de ce qui pourrait renaître entre eux, la passion. Est-elle définitivement enterrée? Isala, l'aime-t-elle encore? Oh, on se croirait dans un soap opéra brésilien, mais c'est trop beau! Voilà. Est-ce qu'il va aider ce couple pour qu'eux partent et qu'ils recommencent sa vie et reprennent le combat? Il n'en saura rien. Rick se rachètera et en héros, il renoncera à son amour. Il doit s'éclipser. Kilsa, qui est prête à partir avec lui, doit rester auprès de Victor parce que Victor a plus besoin d'Isla que lui, comme du laisser-passer. La dernière scène est déchirante. Un aéroport, un avion sur la piste, une nuit humide et brumeuse. T'as de beaux yeux, tu sais. Ah non, ça c'est le quai des Brumes, ça n'a rien à voir. Remarquable ce climat qui s'y est toujours aux séparations, hein. C'est trop génial. C'est toujours un beau coucher de soleil pour les confidents et c'est toujours la brume pour les déchirants ou alors la pluie. Parce que c'est un peu les larmes du ciel qui tombent. Ouais, ça c'est pour les enterrements. Voilà. Des imperméables et des chapeaux mous. Alors, pas d'allusion à une célèbre série anglaise, hein. C'est pas chapeau, melon et bottes de cuir, mais bien imperméable et chapeau mou. Voilà, évidemment. Alors, c'est un passage venu évidemment culte, hein, ce qui me faisait d'ailleurs penser à un fameux générique, le cinéma de minuit, je ne sais pas si vous en rappelez, hein, sur France 3, sur FR3 à l'époque, hein, et donc on voyait des couples, et évidemment, à un moment, on voit Humphrey Bogart et évidemment cette chère Ingrid Bergman, hein, avec la fameuse voix. Alors Casablanca, après avoir fait ses adieux, Isla part avec Victor, Eric et Renaud deviendront amis malgré leurs problèmes. Voilà, c'est trop génial cette voix. Voilà, ils vont, Renaud et Eric vont lutter pour le bien et la justice. Voilà. Alors, élément indissociable de la renommée, oh renommée, qui tue renommée du film, le morceau que joue le pianiste noir Sam, joué par Dooley Wilson, Play It Again Sam, réplique devenue culte puisqu'elle est carrément le titre d'un film de Woody Allen en 1972, parce que évidemment c'est la chanson de Rick et Isla. Voilà, c'est leur chanson. C'est le fameux truc américain, les Américains, les couples américains, ils ont toujours leur chanson à Voilà, c'est un peu comme la boue, mais voilà. Donc, je vais vous passer ce petit morceau de ce cher Sam.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Voilà la fameuse chanson de Rick et Isla. Voilà. As times go by. Alors, petit détail quand même du film, Dans sa version italienne qui sortira donc en 1945, il y a un petit censeur zélé qui effacera tout ce qui touche à l'Italie et au fascisme. Ainsi, le capitaine Tonelli fait un salut romain à son camarade de l'Axe et aussi la fameuse référence à la vente d'armes à l'Éthiopie contre l'envahisseur mussolinien. Voilà, c'est le petit détail de l'histoire. Trois Oscars en 1944, meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario, Casablanca. Mais c'est surtout et avant tout un couple, Ingrid Bergman et Humphrey Bogart. Voilà. Bon, on va vite se lancer sur le prochain film parce que le temps tourne. On reste dans la Seconde Guerre mondiale, c'est obligé, avec Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini, avec Anna Magnani, Aldo Fabrizi et Marcello Piagliero. Voilà, donc Rome, ville ouverte, est le symbole du mouvement néo-réaliste et le retour de la démocratie en Italie aussi, après la chute de Mussolini. Mais c'est aussi une œuvre qui marque un tournant historique, et oui, dans le langage cinématographique. Comme Hollywood elle-même l'a reconnu, il y a un avant et un après Rome, ville ouverte. En effet, juste après la libération de la capitale italienne en juin 1944, dans un pays encore entièrement libéré, outragé mais libéré, le film exprimait un sentiment d'immédiateté et de vérité sans précédent, qui s'explique par sa prise de position et par la pénurie de moyens dans laquelle elle fut aventureusement réalisée. La mémoire collective retient la scène où l'héroïne Pina, femme du peuple, interprétée magistralement par Anya Magnani, meurt sous les balles nazies alors qu'elle cherche à rejoindre son mari qui vient d'être pris dans une rafle. Le film reçut un grand prix du premier festival de Cannes en 1946 et le scénario de Sergio Amidei, qui a fait d'ailleurs appel à de nombreux collaborateurs, dont Fellini fut nommé pour l'Oscar. Les personnages principaux sont au nombre de 3. Il y a Pina, évidemment, le curé Don Pietro, joué par Aldo Fabrizi, et l'ingénieur Manfredi, joué par Marcello Piagliero, dirigeant communiste de la résistance romaine, évidemment. Les communistes. Leurs destins se croisent pendant les 9 mois de l'occupation de la capitale par les Allemands. Alors, Rome avait été déclarée ville ouverte en raison de la présence du Saint-Siège. Hein. Saint-Siège qui a quand même bien aidé les nazis. Hein. Rappelons le film de Costa Gavras, Amen, après les bombardements de San Lorenzo en juin 43 et en particulier après les massacres des fosses adriatiques en mars 44. Manfredi doit se cacher, trouver de l'aide auprès de Don Pietro et la famille prolétaire de Pina. Le mari de Pina est arrêté, Pina est mitraillé et abattu sous les yeux de son petit garçon. Le curé est arrêté et torturé par la Gestapo et il sera finalement conduit devant un plateau d'exécution. Tandis que Manfredi, dénoncé aux Allemands, meurt sous les tortures devant le curé qui maudit les bourreaux. Malgré leur sacrifice, ou plutôt en vertu de celui-ci, la lutte continuera après et en leur nom. L'influence majeure de ce film est proportionnelle au débat qu'il suscite au fil du temps. Des objections et des observations se sont élevées sur les plans tant esthétiques que politiques et idéologiques, bien sûr, qui lui reprochaient essentiellement de reposer sur un compromis. À première vue, Rome, ville ouverte, semble être une œuvre transitoire, ce qui était sans doute inéductable. Hein, je veux dire, forcément, il était un petit peu trop proche de son sujet, comme dirait l'autre. La présence de deux stars emblématiques, qui jouissaient déjà d'ailleurs d'une grande notoriété dans les années précédentes, Fabrizi et Magnani, et le joie d'un ton révélant à la fois du mélodrame et de la comédie, le fait que Pina ait déjà un enfant, qu'elle vit avec un homme sans qu'il soit marié, et qu'elle doit régulariser cette union, alimente non seulement un ton léger, mais souligne également la morale anticonformiste des classes populaires à ceux qui s'opposent à la tyrannie. C'est à relier le film à l'époque qui le précède et n'annonce qu'en partie la radicalisation constatée dans les deux chefs-d'œuvre rosselliniens de la trilogie de la guerre. Hein. Donc il y aura Paesa en 46 et Allemagne année 0 en 48. Ou l'extrême rigueur d'Umberto D de Victor Di Sica en 52. D'un point de vue politique, hein, mais l'éthique fut également mise en cause, le résultat que nous connaissons est le fruit d'un compromis. Certes, mais voulu par le scénariste, sans opportunisme. Si le personnage de Magnani s'inspire directement du cas de Teresa Gulace, martyr antifasciste, celui de Fabrizi mêle les histoires vraies de Don Morozzini et Don Papagallo. Oh, Papagallo. Tous deux arrêtés et fusillés. Mais à travers la synthèse qu'opère ce héros du cinéma, le film illustre l'engagement chrétien sans armes, en passant sous silence l'activité armée des modèles de référence. La voix du scénariste Sergio Amidei a pesé lourd dans l'élaboration de Rome, ville ouverte, communiste. Il entretenait d'étroites relations avec le groupe dirigeant clandestin du parti, résolu à faire de cette histoire l'exaltation et l'éloge de la contribution communiste dans la guerre de libération. Forcément, d'orientation différente, certainement moins rigide idéologiquement et peut-être plus enclin au populisme, Rossellini cherche un point d'équilibre. lequel préfigure l'équilibre politique de l'après-guerre et de l'après-dictature en Italie, fondée sur la collaboration, ou plutôt la cohabitation conflictuelle entre deux cultures et familles qui occupent la scène politique, les catholiques et les marxistes. Célèbre aussi dans un petit film dont nous parlerons dans quelques temps, et oui, Don Camillo. Et oui, bien sûr. Par ailleurs, le réalisateur retouche les faits réels en censurant la participation active et sanglante des soldats fascistes pour faire endosser toute la responsabilité aux Allemands. Bien sûr, hein, comme dans Casablanca, on en a parlé il y a juste quelques minutes. Un choix qui relève un désir de réconciliation nationale et de dépassement du traumatisme de la guerre civile. Mais ce sont là des querelles d'initiés qui n'altère en rien la puissance du film et son message à la fois esthétique et civil. Et je peux le dire qu'en France, ça a été aussi le cas, hein, parce qu'on aurait pu faire de nombreux batailles de clochers comme dans le film Uranus, hein, avec Gérard Depardieu. Et évidemment, hein, ces luttes intestines entre ceux qui ont collaboré et ceux qui ont fait partie de la résistance dans les premières heures et ceux qui ont fait de la résistance dans les dernières heures, voire ceux qui ont fait de la résistance, mais en 46, voilà. Donc c'est vrai que il y avait aussi Charles de Gaulle a aussi, ma foi, plutôt réconcilié, un petit peu caché, mais Nelson Mandela le fera lui aussi avec ses comités de pardon, plutôt que de lancer dans une guerre civile qui ferait l'affaire des communistes, des soviétiques ou des américains. Et ben ma foi, là, il fallait mieux, ma foi, effacer et mettre un linge sur ce passage douloureux. Donc voilà, Rome, ville ouverte. Grand film, hein, forcément, hein, l'image de Pina. Donc, mes chers auditeurs et mes chères auditrices, je vais vous laisser, hein. Voilà, on a fait de la chevauchée fantastique jusqu'à Rome, ville ouverte. La semaine prochaine, eh ben, ma foi, on fera du plus léger, hein, n'est-ce pas? Voilà, on va faire avec le film aussi des Noëls américains. Il y aura aussi de nouveau le néo-réalisme, hein, qu'on parlera. Voilà, ça ne veut rien dire. Eh bien, mes chers auditeurs et mes chères auditrices, je vais vous laisser, hein, de la voix et de l'oreille, et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, on commencera les films d'après-guerre. Voilà, encore des grands, grands films. Voilà, donc si vous avez l'occasion de revoir tous ces films, La Chevauchée Fantastique, Autant d'emporte le vent, Rome, ville ouverte, ou même aussi Casablanca, eh ben n'hésitez pas. C'est vrai qu'ils ont un peu vieilli, mais ils restent essentiels, voilà, pour un cinéphile. Eh bien, au revoir, ciao ciao, et à la settimana prossima.